Tous ceux qui ont un soit peu fréquenté un cours de catéchisme savent que Moïse fut sauvé des eaux, mais qu'il est aussi le berger qui, un jour, en plein désert, a été confronté à un prodige. Il a vu un buisson tout embrasé, qui ne se consumait pas. Quand il a voulu voir ce phénomène de plus près, une voix s'est élevée du buisson et lui a dit « N'approche pas d'ici, enlève tes sandales, car le lieu où tu te tiens est sacré. » Exode chapitre 3, verset 5. C'est un peu pareil pour certaines portions des Écritures, car elles donnent au lecteur le sentiment qu'il se trouve en territoire sacré. Le psaume 22 est l'un de ces textes qui inspire une profonde déférence. C'est une longue intercession qui fut composée par David, mais on ne connaît pas la circonstance de sa vie qui l'a motivé à faire cette prière et qui correspond à la persécution extrême qu'il décrit. Il dit qu'il se sent abandonné de Dieu et entouré d'ennemis qui s'opposent violemment à lui, qu'il le tourmente et menace sa vie. Il implore alors instamment l'Éternel de le délivrer d'une mort imminente. En fait, le psalmiste décrit une expérience et une exécution qui ne peuvent pas lui correspondre et qui donc concernent quelqu'un d'autre. La personne de David, en effet, disparaît dans le rayonnement de gloire de cet autre lui-même qui doit naître de lui, mais que l'Éternel appelle son fils. Dans ce psaume, l'esprit prophétique prend pour point de départ une circonstance extrêmement grave de la vie de David qui est rejeté et persécuté et y puise les éléments d'un tableau qui dépasse de très loin la circonstance particulière. Ce tableau est la description fidèle de ce qui s'est passé des siècles plus tard en la personne du Christ. Ce psaume est donc prophétique et annonce la fin de la vie de Jésus qui a été injustement condamné par les chefs religieux puis mis à mort par les Romains. Depuis l'Église primitive, les croyants ont discerné la passion de Jésus dans les souffrances exprimées par le psalmiste, surtout que le Nouveau Testament, et plus particulièrement les Évangiles, font plusieurs fois référence à ce psaume. David utilise des figures de style poétique pour décrire en détail la très grande détresse que le Christ a réellement traversée aux mains de ses ennemis. Cette longue prière a été appelée le psaume de la croix parce que mieux que toute autre portion des Écritures, elle décrit avec une très grande précision la crucifixion de Jésus. Cette prophétie est à mettre en parallèle avec le chapitre 53 du livre d'Ésaïe. Le psaume 89 est le chapitre 22 de la Genèse, dans lequel l'Éternel met Abraham à l'épreuve en lui demandant de sacrifier son fils Isaac. Nous savons que Jésus a cité plusieurs portions de ce psaume et peut-être même sa totalité. Il est très proche dans son contenu du psaume 69, aux différences près que le psaume 22 ne contient aucun passage imprécatoire contre des ennemis et pas la moindre confession de péché. La description qui est donnée du Seigneur est sa parfaite innocence. Jésus reste parfaitement sans faute dans sa relation avec Dieu, avec ses persécuteurs et face à lui-même, et il ne s'apitoie absolument pas sur son sort. Ésaïe écrit « On l'a frappé, et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot, semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas dit un mot. » Alors que mon serviteur le juste n'avait pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient prononcé de mensonge. Ésaïe 53, les versets 7, 9 et 11. Les évangiles donnent le récit historique de la mort de Jésus, tandis que le psaume 22 est comme une radiographie qui permet de lire ses pensées, ses sentiments et son angoisse alors qu'il est en train d'expier les péchés du monde. En devenant homme, le Seigneur s'est défait de sa gloire, puis, sur la croix, il fut dépouillé de toute dignité humaine. Dieu plaça sur lui la totalité de la grâce humaine, afin qu'il devienne le Sauveur, le médiateur, le pont, l'échelle qui permet à l'homme d'accéder au royaume des cieux. Je commence à lire le psaume 22. Au chef des cœurs, psaume de David, à chanter sur l'air, biche de l'horreur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu restes loin, tu ne vas pas me secourir malgré toutes mes plaintes. Mon Dieu, le jour j'appelle, mais tu ne réponds pas, la nuit je crie, sans trouver de repos. Psaume 22, versets 1 à 3. Biche de l'horreur est probablement le titre d'un chant populaire sur la mélodie duquel devait se chanter ce psaume. Sur la croix a eu lieu une séparation complète entre Dieu le Père et Dieu le Fils. C'est la seule et unique fois dans toute l'éternité qu'un tel événement a eu lieu. Il fallait que Jésus soit homme et chargé du péché du monde pour que cette rupture ait lieu. Jésus a toujours été en communion avec son Père, même quand il a été trahi, lacéré de coups et cloué sur la croix. Mais à un moment donné, sur cette croix, Dieu l'a chargé de tous les péchés de tous les hommes, de tous les temps, et s'est détourné de lui. Jésus, alors, est devenu l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Jusqu'à là, Jésus n'a pas protesté et a subi son calvaire sans maudire. Mais maintenant que la colère de Dieu est sur lui, il hurle à la mort de douleur et exprime la souffrance et l'abandon par Dieu. Des tréfonds de son cœur et de son âme, il s'écrie alors « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce « pourquoi » ne traduit pas l'impatience ou le doute, c'est le cri terrifiant et désespéré d'une souffrance indescriptible, de l'innocent martyrisé et de la sainteté bafouée. Le cri angoissant d'une bête déchirée par des chiens en furie. Son cri n'a eu pour réponse que l'écho faible de sa voix parce que Dieu l'avait vraiment abandonné. Il souffrit cette mort sacrifielle pour vous et pour moi. Hébreux chapitre 2, verset 9. L'enfant Jésus est né dans ce monde pour révéler Dieu, mais surtout pour racheter l'homme et ravir à Satan l'autorité légale qui détenait sur l'humanité. Hébreux chapitre 2, verset 14. En menant une vie parfaite, Jésus ne pouvait sauver personne. C'est seulement sa mort qui donne le salut à ceux qui croient en lui. Toute sa vie durant, Jésus faisait pleinement confiance à son Père céleste dans chaque circonstance de sa vie. Il était le canal par lequel Dieu se faisait connaître aux hommes. Jean chapitre 8, les versets 28 et 29. Cependant, une fois sur la croix, abandonné de Dieu qui lui a littéralement tourné le dos, Jésus a connu le désespoir. Je continue le psaume 22. Pourtant, tu es le saint qui siège sur ton trône. Toi qui fais l'objet des louanges d'Israël. Psaume 22, verset 4. Le psalmiste et Jésus se rappellent que de tout temps, Israël a célébré la sainteté de l'Éternel, lui a rendu grâce pour ses actes de justice et pour sa miséricorde. Il ne peut donc pas se détourner d'un homme juste persécuté. Jésus a été totalement délaissé par Dieu parce qu'il a été fait péché pour nous. Comme Jésus est la deuxième personne de la Trinité, il est Dieu. Voilà pourquoi, dans sa seconde épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même ». 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Je continue le texte. En toi déjà, nos pères se confiaient. Oui, ils comptaient sur toi et tu les délivrais. Lorsqu'ils criaient à toi, ils étaient délivrés. Lorsqu'ils comptaient sur toi, ils n'étaient pas déçus. Psaume 22, les versets 5 et 6. Dans l'histoire d'Israël, tous les hommes pieux qui ont crié à Dieu ont été secourus d'une manière ou d'une autre. Cependant, l'insistance du psalmiste qui répète « Il comptait sur toi » souligne que, d'une manière inexplicable, cette fois-ci, la foi n'obtient aucune réponse. Je continue. Mais moi, je suis un ver, je ne suis pas un homme, tout le monde m'insulte, le peuple me méprise. Psaume 22, verset 7. Le ver est une créature laide, totalement dépourvue de moyens de défense. Il n'a aucune possibilité de réagir lorsqu'on l'écrase. Job, chapitre 25, verset 6. Jésus a décrit de façon similaire par le prophète Ésaïe, 53, verset 3. Il est intéressant de noter que dans le texte hébreu, le mot pour ver désigne le coccus illicis. Or, c'est avec le corps séché de la femelle de cette espèce que les Juifs fabriquaient la teinture rouge qui servait à teindre couleur de sang les rideaux du tabernacle. C'est une sorte de rappel que, selon les Écritures, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux chapitre 9, verset 22. Dans une des tragédies de Shakespeare, Lady Macbeth hante la nuit en frottant ses mains à moitié folle, car rongée par le remords du meurtre qu'elle a commis. Elle dit alors, « Tous les parfums d'Arabie n'adouciront pas cette petite main. » C'est vrai. Elle se lave continuellement les mains, et en les frottant, elle crie, « Maudite tâche, va-t'en, va-t'en, je te dis !» Macbeth, cinquième acte, première scène. Mais si vous n'avez tué personne, vous êtes coupable de bien d'autres fautes, et moi aussi. Or, seul le sang du Christ peut les effacer, et rien d'autre. Ni nos bonnes œuvres, ni nos rites religieux ne peuvent nous venir en aide. Seul le sang que le Christ a versé purifie du péché. Je continue le psaume 22. Ceux qui me voient se rient de moi. Tous, ils ricanent. On fait la moue en secouant la tête. Il se confie en l'Éternel, et bien que maintenant l'Éternel le délivre, puisqu'il trouve en lui son plaisir, qu'il le libère donc. Psaume 22, le verset 8 et 9. Non content d'avoir fait exécuter Jésus à l'aide de faux témoignages, les religieux juifs ne le laissent même pas mourir en paix. Il faut qu'il vienne jusqu'au pied de la croix pour se moquer de lui alors qu'il agonise. Matthieu chapitre 27, les versets 39 à 43. On ne peut pas descendre plus bas que ça. Après avoir mordu sa victime et injecté son venin, le serpent se glisse dans l'herbe et disparaît. Mais ces religieux continuent à déverser le purin de leur cœur. Je continue le texte. Oui, c'est bien toi qui, depuis ma naissance, m'as protégé. Tu m'as mis en sécurité sur le sein de ma mère. Dès mon jeune âge, j'ai été placé sous ta garde. Dès avant ma naissance, tu es mon Dieu. Ne reste pas si loin de moi, car le danger est proche, et il n'y a personne qui vienne pour m'aider. Psaume 22, le verset 10 à 12. La confiance touchante du nouveau-né qui s'abandonne à sa mère est représentée ici comme précédant d'une impulsion que Dieu est une preuve de son amour pour le petit de l'homme. Comme David, Jésus exprime sa confiance en Dieu qui, depuis sa plus tendre enfance, a pris soin de lui. Maintenant que l'heure de la détresse a sonné, Jésus demande son soutien. Je continue. De nombreux taureaux m'environnent. Ces fortes bêtes de Basan sont tout autour de moi. Ils ouvrent largement leur gueule contre moi. Ils sont comme un lion qui rugit et déchire. Psaume 22, les versets 13 et 14. Les ennemis sont comparés à des animaux féroces. Le territoire de Basan, à l'est du lac de Génézareth et du Jourdain, était renommé pour ses vastes pâturages. Les taureaux, habitués à paître en totale liberté, étaient particulièrement rudes et puissants. Je continue. Je suis comme une eau qui coule, et tous mes os sont disloqués. Mon cœur est pareil à la cire. On dirait qu'ils se font en moi. Psaume 22, verset 15. Il n'est pas possible d'attribuer cet état à David, car c'est une description exacte de la condition physique poignante d'un crucifié. Ce qui est remarquable, puisque cette forme d'exécution n'existait pas au moment de la rédaction du psaume. « Je suis comme une eau qui s'écoule » est une référence à la transpiration du condamné qui est desséchée par le soleil ardent du Proche-Orient, et à son sang et ses forces qui le quittent. Les os se sont disloqués parce qu'ils sortent des articulations sous l'effet du poids du supplicié une fois que ses forces se sont dissipées. Jésus est mort rapidement, et la seule explication plausible est qu'il a choisi lui-même l'instant de sa mort, et que la cause physique fut l'éclatement du cœur. Le péricarde s'est alors rempli de sang et de sérum, ce qui correspond bien à ce que nous rapporte l'apôtre Jean qui écrit « L'un des soldats qui enfonça sa lance dans le côté, et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. » Jean chapitre 19, verset 34. Je continue le texte. Ma gorge est desséchée comme un tesson d'argile. Ma langue colle à mon palais. Tu me fais retourner à la poussière de la mort. Des hordes de chiens m'environnent. La meute des méchants m'assaille. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Psaume 22, verset 16 et 17. Comparez Ésaïe 53, verset 5 et Zacharie 12, verset 10. Dans les villes d'Orient, les chiens sauvages abondent et sont toujours prêts à se jeter sur tout ce qui peut leur servir de pâture. Des yeux féroces délimitent la partie de son corps que leurs dents vont bientôt dévorer. Ce passage ne peut être évidemment appliqué qu'à Jésus, alors qu'il est entouré d'ennemis qui se moquent de lui ou le crucifient. Je continue. Je pourrais compter tous mes os. Ils me regardent, ils me toisent, ils se partagent mes habits et tirent au sort ma tunique. Psaume 22, versets 18 et 19, comparé Matthieu 27, 35, Marc 15, verset 24, Luc 23, verset 34 et Jean, chapitre 19, verset 23. Pour bien faire sentir aux crucifiés qu'ils ne comptent déjà plus parmi les vivants, les soldats se partagent ses vêtements. La tunique est le sous-vêtement. Les Romains crucifiaient les condamnés tout nus. C'était une humiliation supplémentaire. Auparavant, Jésus s'est comparé à un ver. Sur la croix, il est nu comme un ver. Jésus a tout accepté. Il est descendu le plus bas possible, tout au fond du trou, afin de nous chercher. Et pour que ceux qui croient en lui puissent être revêtus de sa justice, afin de pouvoir comparaître devant le Dieu trois fois saint. On trouve ici tous les détails du calvaire, et cette crucifixion fut accomplie par des hommes qui ne connaissaient pas les Écritures, et n'avaient aucun intérêt à ce qu'elles s'accomplissent, ce qui apporte la preuve irréfutable de l'inspiration divine des textes sacrés. Je continue. Mais toi, ô Éternel, ne reste pas si loin. Ô toi, ma force, viens en hâte à mon aide. Viens me sauver, délivre ma vie de l'épée, mon unique bien de la fureur des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, de la corne du buffle ou de la licorne. Oui, tu m'as répondu. Psaume 22, versets 20 à 22. Même dans sa dernière extrémité, l'union de Jésus avec son Père ressort dans l'appel poignant qu'il lui lance pour demander sa présence et son secours. La corne du buffle correspond à la croix. Jésus a probablement été crucifié sur un pieu, donc une seule pièce. La croix, telle que nous la connaissons, avec sa barre transversale, provient de la première lettre de la fausse divinité Tammuz. Les païens portaient ce symbole en T comme fétiche. Quand ils ont été obligés de se faire chrétiens, les églises du IIIe siècle, étant déjà décadentes, n'ont pas objecté et ont adopté le T de la fausse divinité Tammuz pour représenter la croix du Christ. Oui, tu m'as répondu, marque le tournant du psaume, car le ton de la deuxième partie est radicalement différent. L'action de grâce commence sans que l'on sache comment a été opérée la délivrance. Cette réponse est la résurrection qui libérera Jésus de la mort. Je continue. Je proclamerai à mes frères, quel Dieu tu es. Je te louerai dans la grande assemblée. » Psaume 22, verset 23. Ce verset est cité tel quel dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2 et au verset 12. Jésus dit qu'il proclamera la grandeur de Dieu dans le monde, sous-entendu par l'intermédiaire de ses disciples. Et c'est bien de cette façon que s'est constituée l'Église. Je continue. « Vous qui respectez Dieu, célébrez-le, descendant de Jacob, glorifiez-le, descendant d'Israël, vénérez-le. Il n'a pas méprisé le pauvre à son malheur. Il n'a pas détourné son regard loin de lui. Non, il a écouté l'appel à l'aide qu'il lui lançait. Grâce à toi, je te loue dans la grande assemblée. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te révèrent. Que les malheureux mangent et qu'ils soient rassasiés. Oui, qu'ils louent l'Éternel, ceux qui vivent pour lui. Que votre vie dure toujours, aux confins de la terre, tous les peuples du monde se souviendront de l'Éternel. Tous, ils se tourneront vers lui, et toutes les nations se prosterneront devant lui. Car l'Éternel est roi, il domine sur les nations. » Psaume 22, les versets 24 à 29. Ces paroles cadrent bien à la situation de David et à la culture juive. Par extension, elles s'appliquent aussi aux croyants. D'abord Israël, puis la perspective s'élargit à tous les peuples de la terre qui finiront par reconnaître que l'Éternel est le seul vrai Dieu. Je continue. Tous les grands de la terre mangeront et l'adoreront, et ceux qui s'en vont vers la tombe, ceux dont la vie décline, se prosterneront devant lui. Leur postérité, à son tour, servira l'Éternel et parlera de lui à la génération qui viendra après lui. Psaume 22, les versets 30 et 31. Durant le millénium, même les grands de ce monde célébreront un culte à l'Éternel, et la royauté du Christ sera reconnue de génération en génération. Je finis le psaume 22. Cette postérité publiera sa justice, elle annoncera au peuple qui va naître ce qu'a fait l'Éternel pour le salut des siens. Psaume 22, verset 32. Aucune expérience de la souffrance et de la délivrance divine n'a eu, comme celle de la croix et de la résurrection de notre Seigneur, une telle portée universelle. La proclamation dans le monde entier de l'Évangile à partir de la Pentecôte est « La conversion des gens de toutes les nations constitue l'accomplissement de la vision grandiose d'avenir de la fin du psaume 22. » Ce qu'a fait l'Éternel et l'œuvre du Christ sur la croix. Sa dernière parole fut « tétélestaï », un seul mot en grec. Il est traduit par « tout est accompli ». Le salut réalisé par Dieu en Jésus-Christ est, pourrait-on dire, clé en main. Dieu ne veut pas que nous bricolions nous-mêmes notre salut avec un peu de bonnes œuvres, quelques rites, de la superstition, en portant une médaille par exemple. « Jésus a subi la croix pour moi, afin que je n'aie jamais à m'écrier « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché, le vôtre et le mien. Il a parfaitement accompli l'œuvre du salut, il a triomphé de la mort et nous l'offre la vie éternelle que je ne peux ni mériter ni acheter. Je dois l'accepter comme un don généreux de sa part, car « tout est accompli ».